Bonsoir à tous, merci d'être venus. Alors tout d'abord, avant de commencer, je vais vous présenter un cycle qui est un petit peu plus court cette année. L'an prochain, on essaiera de pouvoir intervenir un peu plus, mais c'est compliqué tout associer entre les gestions de salle et les disponibilités de chacun. Ce soir, je vais vous faire une proposition autour d'un intitulé que j'ai nommé « Éloge de la déliaison », j'y reviendrai. Le 10 juin, Mathieu Garraud interviendra au TNP donc pour une intervention qu'il a nommée « Autopia et la pervertisation de l'espace du lien social ». Il abordera une clinique qui lui est propre autour des questions de l'exclusion sociale. Et cette clinique-là est le traitement, on va dire, social de cette question de l'exclusion. Le mardi 17 juin, Antoine Finet interviendra autour des dangers du cybernarcissisme, enjeu de la subjectivité online. Voilà. Et le mercredi 18, Claire Durosard interviendra, elle, aux archives, donc vers PRH, si je ne me trompe pas, pour un intitulé qui s'appelle « Chronique de la vie amoureuse, liaison dangereuse ?» Voilà. Face à ce thème des liaisons dangereuses, cette année, on s'était un petit peu tous interrogés sur la façon d'essayer de le traiter. Et je dirais, ces quatre interventions, même si elles sont faites du coup par des personnes différentes, ont pour tentative d'essayer de traiter des points différents de la question du lien et de la liaison et de la déliaison du point de vue des processus psychiques. Et du point de vue, on va dire, des relations humaines, pour parler plus simplement. Donc voilà, chacun, on va dire, suivant nos modèles et à nos façons, on a essayé de se répartir différentes focales d'intervention. Voilà, moi ce soir, je souhaitais vous faire cette proposition, que j'ai nommée « Éloge de la déliaison ». Alors l'éloge, c'est parce que j'aime bien être un peu provocateur, et que, du coup, voilà, je trouvais que l'intitulé, un peu comme ça... offrait une possibilité de paradoxe, voilà, et de contradiction, et qui me semble toujours intéressant d'interroger les contradictions. Il aurait été sans doute plus simple de faire l'éloge du lien et de la liaison, mais on va essayer de voir justement en quoi la déliaison recèle des points de repère féconds pour le fonctionnement psychique. L'éloge, c'était aussi une forme de clin d'œil, un clin d'œil le premier à Erasme, autour de l'éloge de la folie, et le second à Paul Denis, qui a écrit un joli petit livre, qui est un recueil d'articles, et qui se nomme « Éloge de la bêtise », et dont je vous invite à éventuellement faire la lecture, qui parle de l'âge bête, et voilà, l'enfant en période de latence. « Éloge de la bêtise », c'est un joli petit bouquin. Voilà. Globalement, on pourrait tous convenir que la liaison, c'est quelque chose d'assez évident et d'assez utile au fonctionnement psychique normal. Le travail du lien, il est habituellement considéré en psychologie clinique, dans la pensée psychanalytique, le lien qui soit intersubjectif ou intrapsychique. D'un point de vue intersubjectif, on pourrait dire que l'individu, il est poussé à être en lien dès les premiers temps de sa vie et tout au long de sa vie, on va dire, au fil de son processus de croissance, et que faute de pouvoir être en lien, apparaîtraient, on va dire, des complexités ou des difficultés à ce processus de croissance. À la base, quand l'enfant naît, on va dire que s'il n'est pas capable d'être en lien, il ne pourrait pas survivre, du fait de sa prématurité. Ça, on l'a à peu près tous en tête. Ce lien, il va donc être nécessaire à la vie physique d'une part et psychique ultérieurement. Les expériences relationnelles, du coup, précoces et aussi celles un peu plus tardives, vont permettre à l'individu qui est en train de naître, qui n'est pas encore, on va dire, un individu constitué, vont lui permettre de commencer à se fabriquer des relations d'objets, qu'on va nommer. Ces relations d'objets, elles sont des relations avec des objets extérieurs, mais elles vont être aussi des relations avec des objets internes. Et au fil du processus de croissance, le nourrisson va se créer tout un monde interne qui va, je dirais, qui va peupler sa psyché. Ce qui nous amène au point de vue intrapsychique, on va dire, qui est le second volet, et qui est que du point de vue intrapsychique, à l'intérieur du fonctionnement psychique même, le nourrisson, le jeune enfant, l'adolescent, le jeune adulte, l'adulte, n'a de cesse que de créer un monde et de créer des relations avec ce monde interne qui, effectivement, est issu de, des relations objectales qu'il a pu avoir, mais aussi celles qu'il a dans l'actuel. Il y a eu un bouquin qui était sorti qui disait que tout se jouait avant 6 ans. Il est évident que les choses ne se jouent pas totalement, irrémédiablement, heureusement, dans la toute petite enfance, même si on a coutume dans la discipline de beaucoup s'intéresser aux nourrissons et aux jeunes enfants, les choses n'en restent pas là. On peut, je dirais, considérer que les relations d'objets se fondent, en tout cas dans la prime enfance. Dans la prime enfance, il y a quelque chose qui se fonde d'un terreau, un terrain propice à la capacité de pouvoir être en lien. Et au fil de, au cours de la vie, ces liens-là vont avoir de cesse que de se développer. Voilà le point de départ qui est assez évident et vis-à-vis duquel tout le monde pourra dire oui, ok, le lien et le travail de liaison, le travail d'association, il est utile au vivant du point de vue du fonctionnement psychique. Ce que je souhaite aborder, c'est le contrepoint de ce point de départ. Le contrepoint qui aurait une utilité à la déliaison. C'est quelque chose que je vais aborder du côté de la solitude et d'un besoin de solitude dans un premier temps, puis du côté du travail du négatif. Et pour ça, on passera par les repères que sont la fonction pulsionnelle et la fonction de représentance. Le premier point de départ pour essayer de penser ce besoin de solitude, alors le besoin de solitude, je voulais le proposer comme René Roussillon parle du besoin, il a écrit un petit texte sur le besoin de folie à partir de Winnicott, d'un besoin de folie qui serait inhérent à tout vivant, hein, et que si en prenant cette idée que finalement si on est trop normal, ce serait un peu inquiétant, et qu'on a bien tous un besoin de folie. Ici, le besoin de solitude, il revient à dire que si on est collé à l'objet, on ne peut pas exister. Et que le lien, l'hyperlien, on pourrait dire, est sans doute tout aussi néfaste que le fait de rester isolé dans son monde et d'être privé de la capacité de pouvoir être en lien avec les autres. Il faut pouvoir séparer, du coup, pour et pouvoir exister et développer peu à peu une identité. Les bienfaits de cette solitude, ou cette nécessité, on va dire, de solitude, elle renvoie à ce que Rémi Puiello, qui est un psychologue et psychiatre, peut-être de formation, je ne sais plus, il est psychanalyste, il habite à Toulouse, et il dirige la revue Empan, et il a fait cette proposition de deux formules autour de la solitude blanche, qu'il nomme, et la solitude habitée. Une solitude blanche qui serait une solitude du côté de la détresse, hein, plutôt du côté de, enfin, mobilisant plutôt l'angoisse, où l'individu se sent perdu à l'intérieur de cette solitude, et la seconde qui va être du côté d'une solitude habitée qui féconde au travail d'introspection et féconde à la possibilité de pouvoir, je dirais, se rencontrer. On va y revenir. Ce besoin de solitude, il rencontre un besoin qui est que il faut être seul pour pouvoir exister. C'est-à-dire que bien sûr qu'on existe avec les autres, on existe auprès des autres, mais malgré tout, pour se sentir exister, pour se percevoir comme existant, il va falloir réussir à développer cette capacité à pouvoir être seul. Winnicott va en faire la proposition en 58 dans un petit texte qui se nomme « La capacité à être seul ». Et c'est un texte que vous pouvez trouver dans un bouquin qui s'appelle « De la pédiatrie à la psychanalyse ». Et dans ce texte, il va faire cette proposition de la capacité d'être seul en présence de l'autre. Pour lui, la capacité d'être seul d'un individu, ça va constituer un des signes les plus importants de sa maturité psychique. Et il pointe ça comme un paradoxe en disant à la fois la capacité d'être seul serait un des degrés d'achèvement les plus complexes du développement psychique, et à la fois toutes les théories psychanalytiques, de psychologie clinique, invitent à penser l'individu, le nourrisson naissant dans une position anobjectale. On parle de stade du narcissisme primaire, hein, où le bébé serait seul. Peu à peu, il arrivera à prendre conscience que l'autre existe, et là se développerait ses relations d'objet, et il pourrait rencontrer l'autre. Il passerait d'un stade anobjectal à un stade objectal. Alors, ces conceptions, elles restent valables selon certains auteurs, elles sont de plus en plus interrogées, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait le nourrisson, bien avant d'exister, est déjà en lien, hein, et que on peut imaginer que l'autre existe, pas forcément comme un objet identifié, constitué de bout en bout, clairement pour le nourrisson, mais malgré tout, il a bien une perception d'un dedans et d'un dehors assez précocement, hein, pour une part, et à la fois pour une autre part. Il va avoir ce vécu, le nourrisson, d'une première indifférenciation entre ce qui lui appartient et ce qui appartient à l'autre, hein, ce qui serait à lui et ce qui serait à l'autre. Et que ce vécu-là va peu à peu s'organiser, il faut l'espérer, sinon, il va s'organiser dans les cas où le développement se passe au mieux. Si le nourrisson ou l'enfant n'est pas capable de clairement différencier ce qui se passe au dedans et ce qui se passe au dehors, c'est des modes d'organisation qu'on rencontre ou dans des troubles autistiques ou dans des pathologies de type psychotique, hein, où on voit bien qu'il y a un retour hallucinatoire avec une confusion de ce qui vient de moi ou ce qui vient de l'autre, hein, ou de l'extérieur. Je passe vite là-dessus, mais juste peut-être pour pointer que dans ce que Winnicott va développer sur la capacité d'être seul en présence de l'autre, il va dire, souvent on parle de l'Oedipe. Donc on va faire les choses à rebours. Hein. On parle de l'Oedipe. L'Oedipe, ce sont des relations à trois. Des relations à trois, et avant les relations à trois, il y aurait l'idée des relations mère-enfant, donc des relations à deux. Hein, le modèle des relations à deux. Et puis avant ça, donc, le modèle de la relation à un, il propose. Et c'est dans ce modèle de la relation à un, il le propose un peu sous forme comme ça provocatrice, que serait l'organisation du narcissisme primaire et cette capacité d'être seul en présence de l'autre. Et à la fois, la clinique nous invite à découvrir l'inverse, c'est-à-dire que globalement, c'est bien plus tard qu'on va réussir à pouvoir être seul en présence de l'autre. C'est pas quelque chose d'une première acquisition du nourrisson, hein. C'est quelque chose donc qui va être un phénomène élaboré, une acquisition qui est assez tardive et qui ne peut être rencontrée paradoxalement qu'après l'acquisition des relations à trois. Ça veut dire que pour pouvoir se rencontrer, pour pouvoir supporter la relation à soi-même, il faut avoir pu construire une relation avec l'autre et une relation avec des autres, dans une triangulation oedipienne qui est à peu près, perçue ou reconnue de tous. Hein. Être seul, ça va permettre de penser, ça va permettre de découvrir. Ce que Winnicott développe dans ce court texte, ce sont ces moments où l'enfant, en présence de sa mère, d'un parent, d'une nourrice, peu importe, hein, d'un adulte qui veille sur lui, se sent dans un état suffisant de sécurité pour s'abandonner à sa rêverie, on pourrait dire, et se laisser aller à ce sentiment de solitude. Un sentiment de solitude qui n'a rien à voir avec celui qu'on peut rencontrer quand on se retrouve seul, chez soi, un dimanche, avec personne à qui parler, où ça pourrait être angoissant. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit bien d'une solitude partagée, une solitude en présence de l'autre, où la présence discrète de l'autre permet à se laisser aller, à se sentir seul. Il y a René Roussillon qui a fait deux propositions suite à ça, je vais retrouver les références précises. La première, elle est du côté de la capacité d'être seul en présence du couple. Et la seconde, la capacité d'être seul en présence du groupe. Je transmettrai à François qui mettra les références biblio sur le site si vous le souhaitez. Ce sont des textes qui sont parus dans la revue française de psychanalyse. Dans le texte sur la capacité d'être seul en présence du couple, il décrit une scène, on pourrait dire banale, un dimanche en famille. Les parents sont là en train de discuter, les enfants sont posés à côté, au début sur la table, et puis finalement vont se mettre sur le tapis, sortir leur Lego, leur Playmobil, leur jeu, et se mettre à inventer un monde. Et pendant ce temps-là, les adultes, eux, sont dans leurs histoires, et une scène éminemment banale. À partir de ce modèle-là, il va développer la présence sécurisante du couple parental permet à l'enfant de s'abandonner à ce sentiment de solitude. Il va croiser ça avec, je dirais, toute la problématique du sexuel, qu'on essaiera de reprendre tout à l'heure si on a le temps, mais qui, parce qu'elle nous invite à une autre forme de complexité. À l'inverse de cette capacité d'être seul en présence de l'autre, il pourrait y avoir l'incapacité d'être seul en présence de l'autre. C'est, pour le penser, on pourrait dire que l'hyperliaison, Antoine vous parlera de l'hyperlien, avec toute la polysémie que ça peut recouvrer, l'omniconstance du lien serait le négatif de ce qu'on vient d'évoquer, ça veut dire une forme de témoin de l'immaturité du moi. Il signerait un besoin de dépendance et un besoin que l'autre soit là pour pouvoir se rencontrer et se sentir habité. Dans ces situations, si l'autre vient à manquer, alors le risque est pour l'individu de devoir recourir à un objet de substitution pour assurer cette présence-là. Et ces objets de substitution, ça peut être ou un objet de substitution ou une conduite de substitution. Du côté des objets de substitution, on pourrait avoir tout ce qui est du côté des objets d'addiction, hein. C'est-à-dire que l'objet d'addiction permet de maintenir une présence à un objet, hein, et d'éviter ce manque, ce vide. La conduite, elle, d'évitement, va être du côté d'une fuite dans l'agitation ou dans la fuite motrice ou d'une défense maniaque. Je dirais que pour pouvoir être seul en présence de l'autre, il faut être suffisamment capable de supporter une forme de dépressivité, une forme de négativation du lien, une forme d'absence, une forme de manque. Et je dirais que cette capacité d'être seul est à différencier du sentiment d'isolement. L'isolement qui va renvoyer, ou qui va être lié paradoxalement à une indifférenciation avec l'objet. Pour essayer de réfléchir à cette question, j'ai pris appui sur un texte autour de la séparation qui a été écrit par Isée Bernasseau, qui se nomme donc du coup la séparation, un concept pour penser les relations précoces et leur réaménagement à l'adolescence. Je voulais vous amener à essayer de réfléchir comme ça ensemble. Sur le travail de représentation au niveau des processus psychiques et sur le processus de séparation auquel ça renvoie. Le processus de séparation qui va être du côté de la déliaison au sens large du terme, s'entend. Elle évoque, Isée Bernasseau, l'idée qu'effectivement pour se séparer, il faut d'une part que le lien ait été constitué. Ça va être un premier modèle freudien. Et puis, au fil des auteurs, on va s'apercevoir que finalement, les choses ne sont pas linéaires. C'est pas forcément il faut avoir été en lien pour pouvoir se séparer, mais peut-être il faut être capable de pouvoir se séparer pour pouvoir exister. Là, on est face à un paradoxe. On se retrouve face à des questions épineuses que la clinique nous renvoie souvent. C'est qui de l'œuf ou de la poule? Est-ce que c'est la pulsion qui crée l'objet ou est-ce que c'est l'objet qui crée la pulsion, hein? On est dans ces dialectiques-là. Là, on pourrait se dire, est-ce que la séparation est nécessaire au fait de pouvoir exister, hein, ou est-ce que si on existe, on crée du lien et la séparation advient et on la perçoit comme séparation parce que on a eu l'expérience d'être en lien antérieurement. Ça, c'est véritablement un sujet à débat, mais c'est aussi ce que je souhaite, après qu'on puisse s'interroger, si vous le souhaitez, dans la seconde partie, c'est qu'on puisse essayer de réfléchir ensemble sur ces différents modèles. Le travail de liaison, il est aussi le travail de représentation, le travail de liaison entre l'affect et la pulsion. Ça va être un repère freudien. Ce repère-là, il va nous amener à réaliser que la représentation, c'est-à-dire pour pouvoir se représenter un objet, il faut que cet objet se soit absenté. C'est le manque qui fait qu'on a besoin de se représenter, de se figurer au niveau de nos processus psychiques internes, l'autre. Si l'objet est toujours là, nul besoin de se le représenter. Ça va être un premier modèle. Modèle qui va être développé essentiellement par Freud, qui sera repris après par la suite par André Green. André Green dit, je peux vous citer, la représentation nécessite donc pour se mettre en place une négativation de la présence. Du coup, la perte de l'objet, il parle de la perte du sein, parce que les psychanalystes parlent souvent du sein, on a déjà abordé ça. La perte de l'objet va permettre la constitution dans le moi d'un cadre maternel comme structure encadrante. C'est une proposition qu'il va faire en 1983 autour du travail du négatif, dans un bouquin qui s'appelle « Le travail du négatif ». Il va y développer l'idée de l'hallucination négative de l'objet. L'hallucination négative qui serait par présentation de l'absence de représentation. Je ne sais pas si vous voyez l'histoire. Ça veut dire simplement, pour le dire peut-être autrement, se représenter qu'il n'y a pas de représentation. Voilà ce que serait le travail du négatif. C'est-à-dire que d'un côté, on a un objet est là, il disparaît, du coup, on est obligé de se créer une image interne de cet objet-là pour pouvoir se le représenter, et donc il existe finalement intrapsychiquement en son absence dans la réalité, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit absent intersubjectivement, absent dans la relation, pour pouvoir exister à l'intérieur de nous. Et l'étape suivante va être la capacité de l'individu à pouvoir se représenter une absence de représentation. Ce processus qui est du côté du négatif, il propose de le penser comme une forme d'écran blanc sur lequel vont pouvoir s'inscrire des représentations. C'est-à-dire qu'il faut une trame, il faut, comme au cinéma, un écran sur lequel on projette les choses. L'écran, c'est pas un objet, c'est une absence d'objet, on pourrait dire. Enfin, d'un point de vue matériel, bien sûr, c'est un objet. Mais d'un point de vue psychique, si on le pense, pour que les choses puissent s'inscrire, il faut une surface propice à pouvoir les accueillir, hein, ces représentations, ces figurations internes. Et du coup, tout ce travail du négatif, de l'hallucination négative, va permettre à ce que la représentation puisse advenir. J'aurais presque envie de vous demander si vous avez des questions. Je sais que ça passe pas sur la bande, mais on peut ouvrir. Est-ce qu'il y a des choses qui d'ores et déjà, parce que le risque après c'est si les choses sont trop obscures de vous perdre. Est-ce vous avez des questions ou vous souhaitez intervenir par rapport à ça? Oui.
Je viens de commencer un livre de Bonchonique, Un merveilleux malheur, et il évoque un truc qui m'a paru surprenant, c'est que quand on couvait trop les enfants, on les protégeait trop, et qu'après, ça les rendait indifférents. Enfin, du coup, c'était des coupeurs de liens. En fait, pour pouvoir avoir de l'attachement, il fallait. L'enfant s'attache à ses parents parce qu'il est un peu en danger, en quelque sorte. Mmh. S'il n'avait pas de danger, de peur d'être abandonné, etc., finalement, il développait pas d'attachement. Mmh. Et s'il était dans un monde sans peur, super, super protégé, et ben finalement, il ne développe pas d'attachement pour ses parents. Mmh. Il perd de lien. Alors, je raconte ça, mais en même temps, je me demande si c'est pas au sujet.
Donc, c'est absolument pas hors sujet. C'est éminemment en lien, moi je le dis peut-être d'une façon un peu technique. Boris Cyrulnik, que vous citez, il a l'avantage de rendre les choses peut-être avec un discours bien plus agréable. Hein. Il sait écrire et toutes les questions autour de l'attachement, elles vont être du côté des vécus intersubjectifs. C'est-à-dire ce que je voulais essayer de décliner, c'était ces deux pans qui sont indissociables, hein, c'est-à-dire de notre monde interne et du monde relationnel, on va dire. Et que notre monde interne se construit sur l'expérience relationnelle. Et quand vous évoquez la question des théories de l'attachement et de la capacité de l'enfant à pouvoir se sentir en sécurité, et pour ça il faut qu'il ait vécu la séparation, il faut qu'il y ait un peu de manque, c'est l'exacte traduction, on va dire, de ce qu'on est en train de se raconter là. Effectivement. C'est-à-dire que, globalement, si l'objet est omniprésent, si l'objet est toujours là, si aucun manque, aucune absence n'est perçue ou ressentie, alors l'attachement risque d'être insécure dans le sens où il n'aura pas lieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attachement, il n'y aura pas de perception de l'objet. Pour pouvoir percevoir que l'autre est un objet, ou en tout cas l'autre est bien différencié de nous, pour le dire comme ça, pour pouvoir percevoir ça, il faut qu'un travail de déliaison, un travail d'absence, un travail de manque, on va dire, ait pu opérer. On pourrait dire que c'est dans le manque ou dans la déliaison que se crée l'objet. Que se crée l'objet interne. Ça va être une proposition de Donald Winnicott, qui est un peu paradoxale, hein, mais qu'on va peut-être reprendre tout à l'heure, mais qui consiste à considérer que pour que l'objet existe, il faut l'avoir détruit. Alors, entendez, pas l'avoir détruit dans la réalité, hein, mais avoir exercé une forme de destructivité vis-à-vis de lui, et avoir reçu en retour une forme de réponse, et que cette réponse-là nous permet vraiment de réaliser que l'objet existe. Si on n'est pas dans cette capacité-là de dialogue avec l'objet, alors, qu'est-ce qui nous prouve qu'il existe bel et bien, cet objet ? Et tout ce travail qu'on appelle, on va dire, de destructivité, qui serait l'expression de la haine, consiste simplement à se considérer comme différent de l'autre. Ça veut dire que pour exister en tant qu'individu, pour que le processus d'individuation existe, il faut se sentir suffisamment, se percevoir suffisamment différent de l'autre. C'est ce qui va c'est ce qu'on va retrouver du côté des processus d'attachement.
On a partagé cette chose-là, qui est, c'est terrible de se rendre compte qu'on a trop donné et qu'après on se retrouve avec un adolescent qui ne respecte pas l'autre des parents, qui fait comme si c'était un petit roi, etc. Et donc, est-ce qu'il est trop tard à un moment donné pour inverser la vapeur? Ou est-ce qu'il faut tout à coup être intransigeant? Ne plus rien donner,
enfin,
je suis dans ce
stade-là. Vous êtes adolescente? Vous êtes dans quel stade? Non. Ah, de la maman adolescente, pardon. Je pense qu'il est toujours trop tard, il est jamais trop tard, j'ai envie de dire, hein, un peu paradoxalement, mais c'est-à-dire que ce qui est constitué est là, et à la fois, heureusement, dans le principe du vivant, c'est quand même de pouvoir, heureusement, s'enrichir des expériences qu'il rencontre. Hein. On pourrait dire que l'hyperprésence, les adolescents que vous citez sont très ingrats, hein, parce que si on leur a tout donné, eux, ils nous font bien comprendre que ils nous doivent rien. Hein, et que du coup, je dirais plus le sentiment de dépendance a été important, plus la capacité à pouvoir se séparer à l'adolescence va être périlleuse, va être difficile. Hein. C'est-à-dire que, quand on a été totalement comblé, quand on a été écouté, quand on a fait l'objet de suffisamment d'attention, à la fois on a pu se développer suffisamment bien pour ne pas être complètement fou, ce qui est déjà un bon point de départ dans la vie, et pour autant, comment on peut commencer à exister comme individu à part entière, avec sa personnalité propre, affirmer ses goûts, ses positions idéologiques, ses convictions politiques, ses choix esthétiques ou éthiques, comment on peut se positionner comme ça, comme un citoyen, un individu indépendant, si on reste collé à l'objet. À un moment donné, il faut pouvoir s'opposer pour se différencier, pour exister en tant qu'individu. Sauf que les adolescents, ils ont la fâcheuse tendance d'essayer de s'individuer plutôt par les actes, par l'écrit, par les gestes, que par le discours. Hein. C'est-à-dire que souvent, c'est plein de tumulte et dehors. On pourrait voir ça comme une volonté de mettre à distance l'autre, hein, et on sent à quel point ils sont empêtrés, complètement empêtrés dans cette question de la soumission à la dépendance. C'est-à-dire que c'est Winnicott qui disait que les adolescents sont des êtres immatures, mais il ne faut pas leur dire. C'est-à-dire qu'ils prétendent à une forme de maturité, mais ils n'ont pas les moyens de la conquérir. Et les moyens, ils vont les avoir, on le sait, on est passé par là, on s'en souvient. Les moyens, on les découvre en prenant appui, dans la civilisation, dans ce que les rencontres diverses et variées vont nous permettre de constituer une identité un petit peu plus forte. Mais au début, ils s'érigent juste en disant « je suis pas d'accord ». Et ils sont pas d'accord parce qu'ils ont une conviction qu'eux savent, eux ont raison, parce qu'ils ont vu en cours de philo que de toute manière c'est pas comme ça qu'il faut penser le monde, et voilà. Et d'un coup, ils veulent essayer d'imposer leur modèle en considérant qu'évidemment le modèle qui leur a été offert serait plus le bon. Alors, je dirais que plus on a été comme ça choyé, bercé et dans un nid douillé, plus la séparation va être vive. Idéalement, il faudrait être plutôt des mauvais parents pour que les adolescents se séparent tranquillement. Hein, quand vous êtes un parent rejetant, carentiel, abandonnique, je pense que vous facilitez le travail de vos adolescents. Je ne sais pas si vous leur facilitez le reste de la vie, mais il faudrait être suffisamment mauvais. Et ça, c'est les constats cliniques que je peux faire au quotidien, mais c'est Winnicott, je le cite encore, il parlait de mères suffisamment bonnes, hein, on retient souvent cette idée-là de Winnicott. Il ne parle pas que de ça, il parle aussi que l'identité va pouvoir se construire dans les failles de l'objet. Et que quand il dit suffisamment bonne, ça veut dire passable, hein. C'est-à-dire qu'il soit suffisamment bonne, mais qu'il ne soit pas totalement bonne. Si l'autre, ou la mère, ou le père, sont un couple parentaux parfait, idéaux, qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, à quoi on peut prétendre au milieu de ça? À part essayer de tuer vraiment papa pour passer le reste de sa vie avec maman, je sais pas, par exemple, si on est un garçon, l'inverse, si on est une petite fille, ou enfin, peu importe, en fonction des orientations sexuelles. Mais ce que je veux dire, c'est que globalement, on n'a pas tellement de destin. Ce qui nous invite à aller voir ailleurs, à se dire que ça pourrait être mieux chez le voisin, ou que... Vous savez, à l'adolescence, souvent, les adolescents, ils s'appuient sur les copains, beaucoup, les groupes de pères, et ils vont dire, de toute manière, ce serait bien mieux si c'était pas ma mère, et puis la mère de telle copine ou tel copain, elle au moins, je vois bien qu'elle est mieux, elle me comprend, enfin... Ce discours-là, sans doute que vous l'entendez, il renvoie au fait qu'effectivement, ils vont aller rechercher des identifications du côté d'autres parents. Et alors, au fur et à mesure que j'évoque ça avec vous, je me dis, bon, voilà, les choses se complexifient parce qu'elles vont aller, elles vont être, il va falloir prendre en compte la question du sexuel à l'adolescence aussi. Hein. Mais déjà, au niveau des liens, comme ça, à proprement parler, des liens d'attachement que vous citiez, l'attachement, c'est la fâcheuse caractéristique de nier la question du sexuel ou de la pulsion. Hein. Ça dit quelque chose de la capacité d'être en lien, donc c'est sympa, mais malheureusement, ça ne dit rien du côté de la pulsionalité. Et je vais peut-être faire une petite jonction de ce côté-là. Mais en tout cas, là où je vous rejoins bien, c'est qu'il faut, il faut être suffisamment faillible, et c'est bien dans les failles que le lien à l'autre et la reconnaissance de l'autre va pouvoir se construire. Il n'y a rien de pire que des parents qui seraient totalement compréhensifs, qui supporteraient tout de l'autre, qui finalement, si vous comprenez totalement votre enfant, qu'est-ce qu'il a à aller découvrir ailleurs, hein? Qu'est-ce qu'il pourrait attendre de la vie? Du coup, il aurait absolument aucun intérêt à aller rencontrer d'autres personnes. Là où ça va se complexifier du côté des pulsions, c'est, tout à l'heure je parlais des enjeux de l'Œdipe, hein, c'est qu'à l'adolescence, c'est ce qui est compliqué, c'est que la potentialité de pouvoir réaliser l'Œdipe, ça veut dire vraiment tuer papa et vraiment coucher avec maman, hein, ou vraiment tuer maman et coucher avec papa, je le dis de façon comme ça enfantine, mais il se réalise. Il peut se réaliser. C'est-à-dire que ce risque-là, ce potentiel-là, il est accessible. L'enfant est devenu un jeune adulte et il est arrivé à un état physique qui lui permet de pouvoir réaliser ça. Ce qui n'était pas le cas quand il était un jeune enfant. Et que ça, c'est éminemment risqué. De percevoir ça en soi, de rencontrer ça en soi. Avec toutes les complexifications du sexuel qu'on va rencontrer. Alors, je ne veux pas trop les traiter parce qu'il y a Pierre de Rosard qui évoquera les enjeux de la vie amoureuse autour de ces questions du lien, hein, et de la déliaison, mais on sait très bien que quand le sexuel émerge à l'adolescence, il modifie radicalement le lien aux parents du fait de, je dirais, la rencontre entre deux registres qui jusqu'à présent étaient différenciés et dès lors sont sur le même niveau. Ça veut dire que quand un enfant est devenu un adolescent, il est pubère. Et cette puberté qui s'érige comme ça au milieu de la relation fait que papa regarde plus sa fille exactement de la même façon et maman regarde plus son garçon exactement de la même façon. Et que le câlin qui pouvait être tendre avec une main dans les cheveux, s'il déclenche une érection, c'est un peu compliqué. S'il déclenche une érection pour l'enfant, devenu adolescent, on s'entend. Si ça déclenche une érection pour le père, c'est compliqué aussi, hein, mais dans le coup de sa fille. Mais vous voyez bien qu'on est à ce risque-là. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'on a affaire à une scène œdipienne, sauf qu'il y a trois corps érogènes en jeu, hein, et que l'érogène lié à la sexualité infantile n'est pas le même que celui lié à un corps adulte. C'est ça qui va faire aussi, qui va participer des mécanismes de rejet et de heurts à l'adolescence. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'être auprès de l'autre, on met l'autre à distance, on s'enferme dans sa chambre. Il y a quelque chose du sexuel qui est à fuir, hein, dans le lien. Ça, je ne sais pas si Kéronique évoque ces questions-là, mais... D'accord. Je me souviens d'en avoir feuilleté des passages de cet ouvrage, mais pas de l'avoir suffisamment en tête. Mais... Du coup, je ne sais pas si associativement, comme ça, il y a des choses qui vous viennent. On peut partir comme ça, mais... Sinon, je peux continuer autour de la question de la déliaison et du négatif. Je souhaitais juste vous amener ça, mais finalement, c'est quelque chose qu'on est en train d'évoquer, hein, dans ce qui s'échange, autour du travail de destructivité qui a été proposé par Winnicott. C'est-à-dire que ce qu'on pourrait entendre du côté du refus, de l'opposition, de la capacité à pouvoir dire non, à se différencier, à penser différemment, c'est cette capacité-là qui va permettre, qui va nous permettre, je dirais, de nous positionner subjectivement et d'exister comme différencié de l'autre. Et c'est quelque chose qui peut paraître éminemment banal de pouvoir, l'idée de pouvoir réussir à dire non, par exemple. Sauf que si on regarde bien, il y a énormément de personnes dans la vie qui sont empêtrées, et c'est pas un signe de maladie, hein, loin de là, qui sont empêtrées dans cette question de la difficulté de réussir à s'opposer, à dire non, et capacité à pouvoir supporter une forme de conflictualité, hein. Et l'autre est convaincu que ce film était merveilleux, il veut à tout prix nous emmener le voir, et nous, mais on l'a déjà vu, mais en fait on trouve qu'il est mauvais, et si on dit ça, est-ce qu'on va pas le blesser? Ce vécu-là, qui est, on va dire, un vécu banal du fait d'avoir un point de vue différent, celui d'un autre, il peut prendre toute son importance si, je dirais, si ce travail de différenciation d'un point de vue narcissique est pas suffisamment bien effectuée, pour le dire comme ça. Je vais le reprendre autrement. Il y a tout un principe de, comment dire, de séparation individuation qui se produit dans la jeune enfance et qui n'a de cesse que de continuer à se produire. C'est-à-dire que toute la question du narcissisme et des relations d'objets sont une espèce de double tension qui sont constamment au travail chez tout individu. Et le fait de pouvoir réussir à s'opposer, à refuser quelque chose, est au risque de détruire l'objet. Pour dire autrement, quand vous dites non à quelqu'un, vous avez peur qu'il vous en veuille à mort et qu'il soit fâché mortellement avec vous. C'est ce qui joue dans les cours de récréation maternelle où les enfants disent « t'es plus mon copain et c'est pour toujours » ou « t'es mon ami et c'est pour toujours », on est dans quelque chose comme ça de radical. On voit bien dans les repas de famille comment les choses s'articulent aussi, et que souvent, on va aller du côté d'un consensus mou, soit on finit le repas avec chacun dans un coin et tout le monde fâché et on se revoit plus avant le Noël prochain, soit, effectivement, on est dans mettre son poing dans sa poche, comme l'expression nous dit, et puis, voilà, ne rien dire. Quand on dit mettre son poing dans sa poche, on voit bien comment l'expression, elle dit, la répression de la pulsionnalité, c'est-à-dire que le poing, on aurait bien aimé peut-être le mettre dans la figure de l'autre, hein. Mais ça se fait pas, et on le garde pour nous. Et alors, l'image, elle est parlante, on pourrait dire un ado aurait facilité à mettre un poing dans la figure de l'autre. Quand on est un adulte à peu près névrosé, on tape pas toutes les personnes qui nous entourent dès qu'on n'est pas d'accord, hein. Même si, quand on regarde autour de nous, on s'aperçoit comment, dès qu'il y a un accident de la route, une contrariété comme ça de ce type, hein, ou une altercation dans la rue, les gens, rapidement, sont très enviromains. Hein. C'est-à-dire comment, finalement, la pulsionnalité, ou les reviviscences, on pourrait dire, adolescentes, peuvent réémerger. Le risque, ce serait de tuer l'autre, de se désaffilier à l'autre, de se différencier tellement que l'autre ne nous aimerait plus ou pourrait plus nous comprendre. Tout ce travail-là, ce que Winnicott a traité du côté du processus de destructivité, en disant qu'on peut exister subjectivement que si la destructivité a pu avoir lieu. C'est-à-dire que ce qu'on évoquait tout à l'heure, que si la différenciation avec l'autre a pu s'exercer. Cette différenciation, elle va s'exercer par la haine, par le travail de haine. C'est-à-dire qu'il faut avoir réussi à suffisamment haïr l'autre pour pouvoir le considérer comme différent de nous. Et dans la situation que vous évoquiez, effectivement, l'adolescence, le risque, il est bien là. C'est-à-dire qu'il y a ce potentiel d'être fâché à vie avec ses parents. Et à la fois, pour pouvoir exister, pour pouvoir être indépendant, on n'a qu'une envie, c'est de quitter le domicile et de s'arracher, s'extraire de cet environnement qui nous offre tout. Hein. On a besoin de le mettre à distance, et ce travail de mise à distance, il passe par un vécu de haine. C'est-à-dire qu'il faut réussir à détester l'autre. Et alors, si vous vous souvenez de votre adolescence, on arrive à tout à fait se convaincre que l'autre, ou le parent, ou le prof, ou est vraiment le pire des cons, je vous passerai les termes, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on est un incompris. Et se sentir incompris, ça apparaît, ça s'érige quasiment comme une forme de conviction nécessaire à l'adolescence. Hein. C'est quelque chose qui... il faut se sentir incompris pour exister.
Au même moment, l'enfant peut considérer qu'il a compris et le parent peut considérer que son enfant est complètement débile. Enfin, que si lui il considère que sa mère est une conne, lui il est pas.
Oui, ben normalement oui, enfin, parce que si on considère que l'adolescent qui vit à la maison est un imbécile, qu'on se sent incompris et qu'on réagit, je dirais, sur le même registre que lui, ça finit en pugilat, cette histoire. Hein. C'est-à-dire que nous, on a effectivement à mettre notre poing dans notre poche, hein, et c'est pas l'envie qui nous en manque pourtant. C'est-à-dire que pour décaler un peu les choses, d'une histoire d'un adolescent au sein d'un domicile familial ordinaire, on voit bien ce qui se produit dans les institutions de soins.
ou moi pour exercer en institution de soins pour adolescents, on voit bien comment les adolescents génèrent chez l'adulte des envies de meurtre. Et vraiment, et c'est-à-dire que les adultes qui s'en occupent, ils développent une forme de parentalité, hein, une forme de parentalité interne qui c'est-à-dire se déploie sur eux, je dirais à peu près tous les sentiments que les ados peuvent avoir vis-à-vis de leurs parents, ils vont les déployer vis-à-vis des adultes qui s'en occupent. Alors, même dans une institution qui ne serait pas de soins, hein, dans une école, dans un collège ou un lycée, on voit ça, c'est éminemment banal. Hein. Le CPE, c'est vraiment le pire des salauds, c'est le censeur, c'est le cerbère, c'est le... Hein. Et il y en a comme ça qui portent cette fonction-là, le pion, le surveillance avec le copain qui est un peu du même niveau générationnel, mais ce qui lui permet quand même de porter un cadre et de rappeler la loi, enfin voilà. Puis après, chaque prof sera investi par les adolescents en fonction des personnalités de chacun. Mais on voit bien comment, dans une institution déjà ordinaire que pourrait être un collège ou un lycée, la question de la destructivité va arriver. Et dans une institution de soins, encore plus, ou un lieu de placement, par exemple, hein, dès qu'on s'occupe, on va dire, d'enfants ou d'adolescents pour qui la vie est un peu plus compliquée ou complexe que des ados ordinaires, comment les adultes qui s'en occupent, déjà ont un brin d'adolescent encore entre eux, si nécessaire, et à la fois doivent réprimer, eux, toute leur pulsionnalité, pour éviter et de coucher avec eux, d'une part, hein, et d'autre part de les tuer. Ça veut dire qu'on entend là ces deux interdits fondamentaux, que toute l'organisation édipienne est censée avoir pu nous apporter. Si on est relativement bien structuré de ce côté-là, on est plutôt du côté de la névrose, ça veut dire qu'on est à peu près conscient qu'on ne peut pas avoir de relation sexuelle avec quelqu'un qui n'est pas de sa génération et on ne peut pas tuer l'autre parce qu'on est en désaccord avec l'autre. Ce dont on s'aperçoit, c'est que dans les fantasmes, les choses ne sont pas aussi claires. Et on sait très bien comment les midinettes qui ont maintenant 12-13 ans, parce que ça régresse de plus en plus, chauffent les adultes. Hein. Et les garçons, ils vont le jouer du côté plutôt de la bagarre et de jouer les gros durs. C'est-à-dire qu'ils bombent le torse, mais ça ne produit pas le même effet hein, quand les filles et les garçons bombent le torse. Et ça ne renvoie pas la même chose.
En fait, moi, ce qui me surprend, c'est que donc, chez deux garçons, et avec l'aîné, c'est comme s'il n'y avait pas eu de crise d'adolescence. Et donc, en fait,
bon, alors j'espère qu'il ne sera pas plus en difficulté par la suite que l'autre, parce que...
Est-ce que c'est possible ou est-ce que j'ai rien vu simplement? Tout le monde dit qu'il y a toujours une crise d'adolescence, et en fait, ça veut dire que ça va arriver plus tard, mais
si c'est bien.
Tout roule, il y en a un, tout roule.
Alors, quand tout roule... J'aurais envie de dire que ça sent mauvais, mais si les choses sont trop simples, alors ça c'est mon côté psy, parce que c'est voilà, on aime bien avoir du mal partout, mais si les choses apparaissent trop évidentes, trop faciles, à un point suffisant que vous puissiez en parler là, par exemple, et que ça vous inquiète, enfin ou que ça, en tout cas, ça vous interroge, ça vous intéresse, c'est-à-dire que vous y portez attention, finalement, vous dites tiens, c'est bizarre. Eh bien oui, par contraste, alors soit le deuxième est vraiment très très pénible et auquel cas ça a carrément écrasé la crise d'adolescence du premier qui du coup apparaît comme juste un petit tumulte, un petit remous, hein. Ça je sais pas, il faudrait les rencontrer, mais de ce que vous en dites, alors je vais pas parler de vos adolescents parce que je les connais pas, hein. Simplement, ce dont on s'aperçoit, c'est que la capacité de pouvoir se mettre en crise, elle est importante. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir réussir à se mettre en crise. La crise, c'est un potentiel à l'adolescence. Et il faut réussir à... Aussi sûr que la déliaison peut avoir autant d'intérêt que le lien, la crise, elle a un effet structurant. Hein. Elle a un effet structurant du côté de l'organisation... Enfin, de... Comment dire, on va dire de l'achèvement ou le parachèvement de ce processus de séparation-individuation. Ça veut dire que pour pouvoir être différent de l'autre, il faut avoir mis en crise quelque chose de soi, hein, vis-à-vis de l'autre. La mise en crise, elle est plurielle à l'adolescence. Hein, je vais peut-être pas tout redécliner ici. Hein. Elle est avant tout une crise biologique, hein, dans un premier temps, hormonale, qui amène à une crise, on pourrait dire, psychosomatique, hein, et elle va amener à la crise oedipienne, un remaniement oedipien, des enjeux oedipiens. En tout cas, la capacité à pouvoir se mettre en crise et être suffisamment pénible, je pense qu'elle est intéressante. Et si on est un enfant trop sage, il y a sans doute lieu de se poser des questions. Disons que d'être trop poli ou d'être trop polissé, je crois qu'on l'avait déjà évoqué ça, mais dans des formes extrêmement pathologiques du côté de... avec Mathieu Garraud, on avait essayé d'évoquer cette question-là, du côté des normopathes, hein, et des imposteurs. Alors je dis pas, ça n'a rien à voir avec, avec votre histoire à vous, c'est juste pour dire que la soumission à l'autre, le fait de lisser les choses ou d'accepter un cadre, ou elle participe de ce qu'on appelle les aménagements en faux self. Et le faux self, c'est quelque chose qui est utile, c'est quelque chose qui permet, par exemple, de supporter les bonnes manières. Le faux self, c'est dire merci à la dame. Personne n'a envie de dire merci à la dame, et on le dit, parce que la dame vous a donné, je sais pas quoi, un bonbon, une bonne séductrice, enfin, voilà. Et du coup, il faut lui dire merci. Mais quand on est enfant, on ne sait pas ça. Et c'est le parent qui impose à l'enfant de se soumettre à ça. C'est les conventions sociales, la politesse, les bonnes manières. C'est donc nécessaire d'en avoir suffisamment. Et à la fois, si l'ensemble de notre personnalité, de notre vrai self, est écrasé par ces aménagements-là, dit en faux self, alors on peut se demander à quel endroit on existe.
Différencier de l'autre ou qui va être peut-être porteur de quelque chose qui se joue dans la famille à un moment particulier, alors que l'autre, l'aîné a vécu les choses de manière différente. Et l'autre arrive après, il se passe d'autres choses dans la famille, c'est une autre période, il y a peut-être des choses importantes qui se sont passées, il n'y a pas de normopathe ou de...
Non mais là, je ne parle pas, je parle pas d'une situation précise. Il est juste que le fait de ne pas faire crise, mais parce que je pars associativement comme ça, moi, quand effectivement la question est posée, j'enchaînais sur, je dirais, les modèles pour essayer de penser ces questions-là. Et je ne dis pas que là, dans la situation donnée, hein, il s'agisse de normopathie, loin de là. Pour aller dans le sens de ce que vous dites, c'est évident que quand il y a, on va dire, 2-3 enfants dans une famille, ces 3 enfants n'ont pas eu les mêmes parents. Même si le facteur n'est pas passé par là. Ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, on n'arrive pas au même moment de la vie de nos parents, hein, et qu'avec le même couple parental biologique, ça ne donne absolument pas le même vécu. C'est-à-dire qu'on n'est pas accueilli de la même façon, n'est pas pensé de la même façon, n'est pas rêvé de la même façon, et du coup, on n'a absolument pas les mêmes liens, hein, d'une part. D'autre part, la question de la personnalité arrive très tôt. Et la personnalité de chaque enfant, de chaque nourrisson, va exister très tôt. Et du coup, les parents ne vont pas être les mêmes aussi, parce que les enfants ne leur donnent pas les mêmes choses à rencontrer. Hein. Et qu'en fonction des enfants, qui vont arriver dans une famille, ce n'est pas la même parentalité qui va se développer. Hein. Et je dirais, ces effets de la rencontre vont participer une complexité qui fait qu'on ne peut pas ni tirer de règles sur les aînés ou les puinés de manière générale, hein, d'une part, ni dire que ce serait absolument désastreux d'avoir cette crise. Hein. C'est-à-dire que d'être sage, et de ne pas faire de crise, c'est pas faire de crise, je ne sais pas. Mais en tout cas, d'être suffisamment sage et adapté au monde, c'est utile, parce que si on ne l'est pas assez, rapidement, on se met en difficulté. Hein. Le négatif de ça, c'est qu'effectivement, si on n'est pas suffisamment soumis, on va dire, aux bonnes manières et aux conventions sociales, on va être du côté de la délinquance. C'est quand même évidemment inquiétant. Donc, est-ce qu'il faut être trop sage ou délinquant? Évidemment que la réponse, elle se trouve dans cette tension entre les deux. Hein. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Hein. Enfin,
c'est ça, en fait, aussi, quand on dit crise, c'est forcément de la violence. Parce que, je ne sais pas trop comment l'exprimer, parce que finalement, madame a dit la crise d'adolescence de son aîné, mais qu'est-ce qu'il en a fait, mais c'est pas passé par une forme de violence comme nous on entend, parce qu'on entend une rébellion, on entend forcément. Et puis ça m'inquiète ce que vous dites, parce que quand on parle de... Finalement, quand on inculque des valeurs de respect, alors ça veut dire que notre adolescent, s'il les apporte, justement, il y a cette violence, ça veut dire qu'il se différencie et qu'il vient dessus. Alors qu'on passe toute enfance à essayer d'inculquer ces valeurs de respect de l'autre.
Alors oui, moi je ne prends absolument pas que tous les enfants devraient taper leurs parents pour se sentir libres et exprimer leur vrai self. Hein. Loin de là, c'est est-ce que ça passe par la violence? Ça passe par la violence du lien, oui, mais ça passe pas forcément. Voilà. Mais on parle d'une violence interne. Hein. Moi, je parle, quand on parle de violence, c'est pas forcément de la destructivité ou quand on parle de destructivité. C'est pas forcément de l'agressivité. Hein. C'est-à-dire c'est pas forcément une violence à adresser. Voilà, exactement. Et on sait que par exemple, les symptômes des jeunes filles sont beaucoup plus du côté du corps. C'est ça qui donne des troubles des conduites alimentaires, par exemple, beaucoup plus, qui vont être du côté des processus de dépression, mélancolie, ou voilà. Alors que les garçons ont tendance à être beaucoup plus sur des modalités symptomatiques expansives, donc ça va être des heurts. Hein, et ils vont aller cramer l'abribus ou s'engueuler avec physiquement. Il y a quelque chose qui va se mettre en tension vers l'extérieur, qui va aller vers le monde, on va dire. Alors que chez les filles, de manière générale, mais je ne veux pas faire de systématisme, il y a quelque chose qui va être au-dedans de soi, qui va plutôt être un mouvement de destructivité vers l'intérieur de soi. Il y a évidemment autant d'exemples qui vous démontrent l'inverse, hein, c'est-à-dire que les filles délinquantes et les garçons déprimés, heureusement. Mais peut-être de dire que la capacité à pouvoir se déprimer et à vivre cette crise comme ça à l'intérieur de soi, elle est plutôt bon signe. On n'est pas obligé de s'insulter, de se taper, et que les questions du respect que vous évoquiez ou des valeurs orales sont précieuses. Hein. Pour autant.
Alors on peut avoir des moments tristes, très violents, mais qui continuent à dire bonjour à la dame qui est dans un bon moment.
Exactement. C'est-à-dire de pouvoir différencier aussi les différents enjeux, hein, et un ado qui refusera, le point de vue de ses parents sur une question politique ou un choix de scolarité.
Ce conflit, il est là simplement, en général, je ne sais pas si c'est une règle, mais en général, avec les gens, c'est un affect. Dans la société, s'ils ont des valeurs de base, de respect, des choses comme ça, c'est peut-être là qu'on voit d'ailleurs que les enfants sont bien élevés. En général, quand les gens qui ont de l'affect ne sont pas.
Oui. Et globalement, si les choses se passent bien, c'est vis-à-vis des parents, le fait que de l'agressivité puisse être exprimée vis-à-vis des parents, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'ils savent qu'ils vont avoir une réponse en retour. C'est-à-dire qu'ils savent que, finalement, en s'adressant à cet endroit-là, l'autre existe, l'autre est attentif, nous écoute, et que si on s'oppose, si on proteste, si on râle, le parent en retour, il va répondre. Il n'y a rien de pire que le fait de protester, de râler, de s'ériger contre, et puis qu'en face, il n'y a rien. Et quand on travaille avec des familles dysfonctionnelles, c'est ce qu'on découvre, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'effectivement, il n'y a pas de réponse de l'objet, il n'y a pas de réponse de l'autre, et qu'il y a une absence de réponse, une négligence, en tout cas, il y a une ignorance de la manifestation de souffrance. Hein, alors que si on est relativement attentif à l'enfant, on va percevoir que derrière le cri ou la protestation, il y a quelque chose d'un malaise, d'un mal-être. Hein. Et quand ces choses-là ne peuvent pas s'exprimer dans une famille, elles s'expriment à l'extérieur d'une famille. Et c'est ça qui donne des formes de messages adressés à la société. Ça veut dire qu'on brûle l'abribus plutôt que de dire merde à papa. Hein. Par exemple, voilà, c'est-à-dire plutôt que d'aller vers une opposition intrafamiliale, on va interpeller un père en uniforme bleu, qui s'appelle la police. Et on voit bien toutes les relations que mènent les jeunes, entre autres en ITEP, avec les forces de l'ordre, ce sont des gentils papas de substitution, c'est-à-dire qu'ils jouent au loup, ils jouent au cache-cache, ils n'arrêtent pas de... Au moins, il y a une réponse, parce que la BAC, quand ils roulent avec leur crosse sans casque au quartier, la brigade anticriminalité leur court après. Ils leur courent pas après comme des fous, ils savent très bien. Ils ne veulent pas non plus les mettre en danger. mais il voilà. Donc il. Bah oui, oui, tout à fait. Mais du coup, ils vont aller rechercher quelque chose de cette limite-là, à défaut de pouvoir la rencontrer, effectivement, dans un cadre intrafamilial. Et c'est souvent, malheureusement, le passant ou le. Voilà, qui va en faire les frais quand la police n'est pas là. C'est-à-dire qu'il y a une recherche de. Quand ça s'agite, place Bellecour le samedi et que ça chahute. Voilà, c'est. On interpelle la société pour avoir une réponse qu'on n'arrive pas à avoir dans un milieu intrafamilial, hein, ou dans un groupe de pères.
Est-ce que vous pensez que justement une pierre qui soit individuelle ou institutionnelle? J'ai en tête une fiction qui est passée sur un site qui s'appelle 3 fois. Et donc, qui montre, je ne sais pas si vous avez
vu. On a parlé, on a beaucoup parlé.
Et donc, il y a vraiment une liaison très nocive entre la mère et la fille. Et justement, la relation d'un peu son fils dans une institution avec un éducateur et une femme dans ce type de l'entretien de la fiction. Et donc, est-ce que vous pouvez parler justement dans la déliaison de l'importance qu'ont ces pierres?
Mais c'est pour ça qu'effectivement, tout à l'heure, quand j'amenais un peu théoriquement, hein, que, comment dire, ces différentes étapes de la relation à deux et de la relation à trois, c'est que tout au long de notre vie, on va être organisé du côté des relations à trois. Alors, quand on dit trois, c'est trois et plein d'autres. Hein. C'est effectivement un modèle pour penser. Mais, comment dire, la tertiité, elle est inhérente à l'organisation édipienne. Hein. Quand elle n'est pas rencontrée dans la famille, de plus en plus, on pourrait dire, dans la réalité familiale, il y a beaucoup de familles monoparentales, s'il n'y a pas de père, quid du tiers. C'est des débats qui ont eu lieu aussi énormément avec la question du mariage pour tous, là où ça fait débat, où les filles ont été interrogées par rapport à ces questions-là. Bon, par rapport à ça, je pense que le seul positionnement sage, il est quand même de dire qu'on ne sait absolument pas ce que ça peut donner et que nous on peut travailler qu'avec ce qui a lieu et pas ce qui aura lieu, c'est on ne prédit pas l'avenir. Donc il faut attendre de voir ce que ça donne. Et ce que ça produit, et je pense que ça produira autant de familles saines que de familles malades, hein, comme toute organisation. Globalement, cette tertiité, elle se rencontre évidemment au-delà de la réalité de la structuration familiale, hein, et je dirais, elle est une référence à un autre qui va être porté par le parent qui s'occupe de l'enfant. Cette référence-là, elle est avant tout dans la tête du parent. C'est-à-dire, c'est comment dire, le fait de référer à un tiers, au père, ou quand les parents disent « attention, tu fais des bêtises, je préviens la police », ou ça peut être le père fouettard, ça peut être en fonction des civilisations, chaque civilisation, chaque culture a son père fouettard ou son gendarme, hein, on pourrait dire. C'est une espèce de figuration, d'incarnation du surmoi. Mais c'est bien, quand un parent fait ça avec son enfant, il renvoie la question de la limite. Hein, et il lui renvoie cette question, effectivement, d'un autre qui pourrait venir couper, poser une butée, un arrêt à un lien qui, sans ça, serait relativement fou ou inquiétant. Hein, parce que si on reste dans la diade, on est dans quelque chose d'inquiétant.
Je pense qu'il y a pas que la limite, je pense aussi, en revenant à la question de la question, au-delà de la limite, il y a aussi cette capacité de trouver dans le tiers quelque chose qu'on n'a pas justement dans le lien fusionnel, et qui est une relation beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine et beaucoup moins identitaire.
Oui, et dans cette figure-là, alors moi j'ai pas vu le film là, que vous évoquez, mais on a parlé, je crois que c'est une jeune fille qui est dans une institution de placement, hein, et qui est assez proche, je pense, Sainte-Sœur, d'accord. Oui, donc c'est un centre d'éducation renforcée, oui. Donc c'est effectivement un placement sur mesure judiciaire, c'est ça, et globalement c'est ce qu'on va rencontrer dans. Mais c'est une problématique qu'on rencontre à l'école. C'est-à-dire qu'on sait très bien comment on a tous eu des profs qu'on détestait et puis d'autres qu'on adorait. Et comment ils nous ont permis de développer notre identité, de parfois trouver une vocation, hein, et puis à d'autres moments, au contraire, de détester une matière à vie, et ce qui nous fera dire que voilà, vraiment, on a un profond rejet pour telle ou telle discipline, c'est souvent lié à l'enseignant qui nous la transmet. Et c'est sûr que quand on va rechercher un tiers de ce type-là, l'avantage, c'est que émotionnellement, il n'est pas gros de l'ensemble des liens qu'on peut avoir avec nos parents. Et effectivement, ça permet de rejouer les scènes, mais c'est ce qu'on fait tout au long de sa vie. C'est-à-dire que quand on va dans un couple rechercher un autre, hein, on fait quoi? On va rechercher quelqu'un avec qui on peut jouer, on va dire, une partition de notre névrose infantile, on pourrait dire. Hein. Et c'est ce qui se passe finalement tout au long de la vie. Ça veut dire qu'on a cesse que d'aller rechercher des objets. C'est ce que nous propose cette conception des théories objectales. C'est-à-dire qu'on va aller rechercher un objet tiers avec lequel on va jouer une ligne mélodique hein, que constitue, on pourrait dire, la partition de notre moi. Et on va pouvoir la traiter avec beaucoup moins de crainte, d'angoisse, de passion que si on devait la jouer avec notre parent. Et c'est beaucoup plus facile de tomber éperdument amoureux d'un enseignant, d'une animatrice, d'un prof de sport, de je ne sais quoi, je ne sais qui, que de dire qu'on serait vraiment amoureux de ses parents. C'est-à-dire que quand on parle du complexe de Dieu, les gens disent que je n'avais été amoureux vraiment de mon père, ma mère. Hein, et effectivement, par contre, on voit à l'adolescence comment l'Œdipe va aller se redéployer dans le milieu extrafamilial. Hein. Évidemment pas, assez rarement, avec le vrai papa et la vraie maman, on va dire, que ça se joue. Ça va être un oncle, un enseignant, peu importe, une figure tierce qui permet de développer à la fois les émois et puis, vous savez, les ados reviennent en disant, trouvant formidable tel prof, ils se sentent compris. Ils se sentent compris par tel enseignant, ils se sentent écoutés par telle animatrice de la MJC ou du club de musique ou de sport, alors que par les parents, eux, ils n'y comprennent rien. Hein. Effectivement, c'est extrêmement précieux. Hein, et c'est ça qui nous permet de soutenir l'idée que les parents ne peuvent pas tout. Et heureusement, et puis qu'on ne peut pas se développer juste avec deux parents, et il en faut d'autres. Hein. C'est-à-dire que finalement, ça ne suffit pas.
Justement, parce que j'ai le souvenir d'un enseignant qui m'avait dit une fois, sa nièce, justement, il y a des études de psychologie, elle avait repris justement sur le livre, nous en Afrique, on ne connaît pas le livre. Et justement, quand on a insisté à l'éducation, alors pas forcément à la question, c'est une famille ou quoi, famille au sens large qui éduque les enfants.
Et le NIP, il est universel, c'est-à-dire qu'il existe partout, sauf là où il n'existe pas, j'ai envie de dire. Et très tôt, les anthropologues qui ont découvert les contemporains de Freud, la psychanalyse, Margaret Mead, entre autres, il y en a quelques-uns comme ça, de Freud après, ont été essayer de voir, de s'assurer si l'Œdipe pouvait se rencontrer partout. On sait désormais que, évidemment, dans sa forme classique, il ne se rencontre pas tel qu'il a été décrit dans la vieille bourgeoise du siècle dernier. C'était le cas de l'Afrique. Alors, l'Afrique, c'est compliqué, c'est un continent, mais on peut dire, moi j'ai lu des écrits sur le Sénégal, où, effectivement, dans certaines cultures, la question de la groupalité, du traitement de la problématique individuelle renvoie au groupe familial, voire au groupe social, au quartier, c'est vraiment la famille au sens élargi. La question du parrainage est extrêmement importante, et c'est une parentalité communautaire, bien souvent. Nous, on est dans nos cultures, je dirais, plus occidentales, autour de familles nucléaires classiques. Hein. Mais heureusement, notre société, les fêtes de métissage et quelque chose sont. Voilà.
Je ne suis pas encore métissé, mais c'est un métissage, une éducation, c'était une chance large. C'est-à-dire que c'était pas deux parents, c'était vraiment oncle, tante, cousin, et tout ça, tout le monde s'occupait de tout. Mais j'allais dire que j'ai passé plus de temps avec des gens qui n'étaient pas mes parents qu'avec eux. C'est-à-dire que c'était pas mes parents, pour les grands-mères, pour les. Mais c'est vrai que ça donne un aspect largement différent au niveau de la perception des choses.
Mais c'est un modèle qui sans doute favorise toute la question des, comment dire, la diversification des identifications et des identifications croisées, hein. C'est-à-dire que voilà, on va, je dirais que il y a cette idée quand même que pour pouvoir être à l'aise avec le monde, il faut être à peu près à l'aise entre quatre murs et chez soi, hein. Et voilà, et plus on a réussi à être à l'aise chez soi, plus après on va s'ouvrir au monde. Le monde, il est, le groupe familial donné, il est différent en fonction de chaque situation familiale. Il y a des familles où la mère sera seule avec ses enfants, l'autre où effectivement il y aura la tante, les grands-parents, les parents qui vivent dans le même, sous le même toit et qui s'occupent des enfants, et finalement une répartition des tâches, à tel point que les enfants peuvent quasiment interpeller l'un l'autre de façon indifférenciée, hein, et enfin, pas forcément, il y a un attachement comme ça qui est assez diversifié d'emblée. Comment dire, quand on fait l'expérience de ce type d'éprouvée communautaire, il y a quelque chose qui est une ouverture au monde qui se fait précocement, là où habituellement ce sont des expériences qui se font dans les premières colonies de vacances ou voilà, après adolescence, voilà, une ouverture au monde. Il y a des familles qui peuvent être très grandes et à la fois très fermées sur elles-mêmes, hein. Ça ne dit rien de la capacité à l'ouverture au monde, et on peut être dans des familles élargies et puis à la fois il faut surtout pas aller voir l'autre parce que l'autre est un étranger, ben, voilà. Première question que ça peut poser. La deuxième question que ça peut poser, c'est quand même la question sexuelle. Ça veut dire que le fait qu'il y ait des places et des différenciations aussi est utile. Moi, j'ai, pour me décentrer de la situation, mais j'ai une jeune fille qui me racontait comment, effectivement, chez elle, ils n'ont pas de lit clairement établi. Et chaque soir, c'est au premier qui va se coucher dans une chambre où voilà, elle trouve ce lit, ça devient son lit pour la nuit. Il y a quasiment une logique du domicile familial qui devient une logique du territoire qui est assez primitive, on pourrait dire. Hein, enfin, quand on a été habitué en tout cas à se développer avec une chambre, un lit à soi, identifié comme à soi dans nos civilisations. C'est une jeune fille qui est absolument pas métissée, du coup, qui est tout à fait plutôt française. Et pour autant, il y a quand même une question du côté de l'incestuel qui se pose, hein, parce qu'il y a quelque chose qui n'est absolument pas différencié entre les parents, les enfants, et les enfants entre eux. Et je dirais qu'il n'est pas sans poser problème, c'est-à-dire que c'est aussi une famille dans laquelle les parents peuvent se prendre des cuites devant les enfants, ça leur pose aucun problème, les embarquer avec eux dans leur soirée, et plus s'y affiniter, ça je sais pas. Voilà, mais et ça devient évidemment compliqué. Hein. Oui, ou c'est pas affilié évidemment du côté de l'enfant, hein. Mais c'est ça qui est extrêmement problématique. C'est-à-dire que le fait de pouvoir quand même différencier, on va dire, sa mère de la tante ou de la cousine, c'est qu'a priori, papa dort pas dans le lit des trois. Hein, et que, voilà. Et à partir du moment où les frontières sont floues, ça ouvre des potentiels, mais des potentiels à haut risque aussi.
Ça ouvre aussi des choses, c'est le mal à sortir, parce que c'est vrai que les choses sont non déterminées. Dans le flou, on a du mal à justement à se positionner, à prendre une place à dire à soi. Si on va, après, quand on élargit son cercle sur des choses encore plus certaines, si on n'a pas de repère, c'est vraiment très perturbant.
C'est ça qui, enfin, comment dire, alors trop de déliaisons, on pourrait dire, trop de, hein, ça évidemment aussi. Moi, si vous voulez, soit on s'est éloigné, mais c'est pas inintéressant, de la trame de base, mais moi, ce que je souhaitais évoquer, c'est la question d'une déliaison suffisamment tempérée, on pourrait dire, hein. C'est-à-dire qu'évidemment, il ne faut pas prôner le non-lien, ou le, voilà, c'est de montrer comment ça peut être un organisateur au même titre que celui du lien.
Pour vous aider, vous devez avoir dit, c'est vrai que c'est important d'avoir du lien, et que le lien à un moment peut casser. Justement, vous devez avoir quelque chose qu'on disait avant, c'est bien d'avoir des bases, d'avoir quelque chose de solide dans un premier temps, parce qu'on peut compter, ensuite le casser pour pouvoir justement s'élargir au monde avec toujours cette base solide sur laquelle on peut revenir. Le jour où justement, on est en train de faire un peu de l'air.
Et pour dire autrement ce que vous êtes en train de dire, la capacité d'être seul en présence de l'autre, pour pouvoir l'éprouver, il faut avoir un autre qui est à côté, qui est bienveillant, qui est là, qui nous sécurise et qui nous permet d'expérimenter ça. C'est-à-dire d'expérimenter le fait d'avoir un espace à soi, un temps à soi, on pourrait dire, d'attention aussi, et une place pour soi dans la tête de l'autre.
Ça, dans un premier temps, c'est probable de tout ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui est justement qui a atteint son autonomie et qui est capable d'être seul, est-ce qu'il a toujours besoin de ça, de cette autre, ou à un moment il a atteint son autonomie et il peut effectivement, en ayant fait la déliaison, réussir à être seul sans avoir besoin de l'autre?
Mais, comment dire, heureusement on a toujours besoin des autres. On ne peut pas passer sa vie seule, sinon on ne serait pas là par exemple ce soir. Enfin, c'est-à-dire qu'on va chercher de l'ailleurs, on va rencontrer des gens tout simplement, on va se parler. Et que ces aspects-là qui fondent la relation humaine sont primordiaux. Hein, même si on est tout à fait capable d'éprouver la solitude ou.
Selon moi, la déliaison, elle se travaille un petit peu tout au long de la vie. Parce qu'on parle de la crise d'adolescence, j'ai envie de vous parler de la crise de la quarantaine, et plus tard, la crise de la vieillesse, notamment lors de l'institution ou au sein de la famille, on voit bien tout ce qui se joue de nouveau. Et je pense que la déliaison, c'est pas acquis une fois pour toutes.
C'est intéressant que vous le rameniez avec le prisme de la crise qui ponctue finalement les différentes grandes étapes de la vie. Mais effectivement, avec le vieillir, on va rencontrer une forme de crise qui est plus facile à penser du côté du processus de deuil. Et ce processus de deuil pourrait effectivement être un autre organisateur, c'est-à-dire que du côté de la différenciation. Ce que j'ai pu qualifier tout à l'heure de position dépressive, c'est effectivement ça. C'est-à-dire la capacité à pouvoir supporter l'absence, par exemple, de l'objet, ou l'absence de l'autre, qu'elle soit à venir ou qu'elle soit effective. Et ces processus de deuil-là, on les effectue au quotidien, j'ai envie de dire, mais chaque jour. C'est-à-dire que chaque jour, vous rencontrez, vous allez sur votre lieu habituel de travail, d'activité, peu importe, vous dites bonjour à des gens, vous vous mettez en lien. C'est quelque chose d'extrêmement. Ça vous demande d'y aller les jours, on n'a pas du tout envie de dire bonjour à tout le monde, vous savez. Hein. Et là, il faut aller dire bonjour à tout le monde. Et après, il va falloir se séparer. Et à chaque fin de journée, il y a des personnes qui sont en difficulté par rapport à ces choses-là. Enfin, et ça, on pourrait dire que ce sont des micro-processus de deuil. Hein. Chaque jour, on a à se séparer. Et là, on est dans des aspects intersubjectifs et relationnels. Mais tout au long de sa vie, on a à faire le deuil d'acquisition, de pensée, de compétences. On a cesse que de perdre, on a cesse que de devoir être confronté au fait de renoncer, de se séparer. Ça, c'est tout ce que après, la psychanalyse a conceptualisé du côté du complexe de castration, mais qui rejoint en tout cas ces processus de deuil et de déclin. Oui, je sais pas s'il y a d'autres, parce que du coup, on est parti comme ça. On est parti comme ça, ça va être compliqué pour moi de remettre tout ça dans un sac et de réussir à en retisser un fil. Et il me semble qu'on a, au travers des différents éléments qu'on a pu évoquer, on a balisé des grandes notions, alors assez rapidement, mais qui seront reprises avec des thématiques, plus précises, peut-être plus particulières, cette question de la déliaison. Et le travail du négatif auquel elle renvoie, le travail de séparation, d'individuation auquel elle renvoie, qui permet un travail de subjectivation, ces accroches du côté de la haine et de la destructivité qui sont rencontrées, alors ce ne sont pas forcément de la violence ou de l'agressivité comme on l'évoquait dans la réalité du lien, mais là où il y a de la destructivité, c'est ne serait-ce réussir à supporter que avant on avait ça et puis après on l'a plus, ou avant on était capable de ça et après on l'a plus. Tout ce travail-là de renoncement, il renvoie bien à la question du manque, et je pense qu'il sera un travail largement traité sans doute plus par, par Antoine Finet et Pierre de Rosard du côté de leurs exposés.
Comme vous parlez du travail de renoncement, comme étant quelque chose qui se fait toujours dans le cadre de la maison, la quarantaine, la cinquantaine, etc. Donc ça veut dire que ça ne touche pas les adultes, ça, ou les plus jeunes?
Ah si, si, mais bien sûr. Non, mais le travail de renoncement, il ne se fait pas que à la quarantaine, cinquantaine, ça. C'est-à-dire que dans le processus du vieillir...
À tous les âges.
Mais oui, à tous les âges. Et dans le processus du vieillir, il y a quelque chose qui, effectivement, va être facilement perceptible du côté de la perte. Hein. Mais c'est une forme de perte. Mais enfant, le travail de renoncement de l'omnipotence, on va dire, infantile, il est constant. Parce qu'avant, on pouvait faire tout ce qu'on voulait, et puis, quand, et puis après, on pouvait... Voilà. Et je dirais, à tous les endroits du développement, c'est une question à laquelle on va être confronté. Alors, il y a quand même des âges vers lesquels ces choses-là se structurent, hein, et entre autres autour de l'intégration des interdits, ce qui va se jouer et à la période édipienne et à l'adolescence. Si on n'a pas intégré à ces moments-là le fait que dans la vie, il faut pouvoir renoncer, qu'on ne peut pas tout avoir immédiatement, totalement, inconditionnellement, si on n'a pas intégré ça, on est dans une espèce de logique expansionniste, une inflation, on pourrait dire, narcissique, ou mégalomaniaque du moi, hein, pour le dire comme ça un peu de façon technique, qui est plutôt inquiétante. Hein. C'est-à-dire qu'on sait qu'on ne peut pas tout avoir normalement quand on arrive à l'âge adulte. Et malgré tout, tout au long de notre vie d'adulte, on va être confronté sans cesse à être tiraillé avec ce vécu de devoir de pas tout pouvoir, de pas tout avoir, de pas tout posséder. Et il faut espérer que ça continue à nous faire souffrir, parce que si ça nous faisait, si ça nous tiraillait plus, si ça nous faisait plus souffrir, c'est-à-dire qu'on serait plus agi par ces choses-là, hein, on serait plus, ce serait plus quelque chose d'organisateur pour notre fonctionnement psychique.
Ce qui veut dire que le sentiment entre guillemets de toute puissance, même si on est encore adulte, c'est normal.
Le sentiment, non, mais le fantasme ou la rêverie, oui. C'est-à-dire qu'on aimerait tous être immortels, très riches, très beaux, avoir une grande maison dans un lac ou je ne sais quoi, enfin, chacun ses fantasmes, je crois. Hein? Mais ce que je veux dire, c'est qu'on aimerait bien tous tout avoir, enfin, comme ça, inconditionnellement. Et écoutez, les fantasmes, c'est important, on peut, de maintenir des fantasmes vivants, parce que comme on dit, l'espoir fait vivre, hein? Enfin, j'ai envie de dire. Donc, même si on sait que c'est pas un espoir réalisable, c'est un idéal, voilà, qui est plein de vie, hein? Qui est plein de libido. Pour autant, normalement, quand on est adulte, on sait qu'on ne deviendra pas un chanteur de rock, par exemple. Hein, on sait qu'on ne sera pas cosmonaute. On sait qu'on ne sera pas attaquant au Real de Madrid. Voilà. Normalement, on a renoncé à ces choses-là. Normalement. Alors, ceux qui ne renoncent pas, c'est ceux qui arrivent à peu près, voilà, les présidents de la République, les Ronaldo, les chanteurs de rock, ou les bien sûr il y a des métiers dans lesquels ils flirtent avec l'impossible comme ça. Alors après on sait aussi comment ça se finit, souvent c'est dans la coke, les drogues, la dépression, et puis il y a quand même la retombée du soufflet qui est relativement rapide, hein, dans ces métiers là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on accède à l'idéal, quand même, malgré tout le monde entier s'effondre, hein. Et on sait très bien les carrières de qui font briller les yeux de tout le monde du côté des mannequins ou des modèles ou des joueurs de foot ou des on pourrait en prendre d'autres des exemples mais ou des stars de cinéma ou des chanteurs et on sait très bien que c'est encore dans la chanson que les choses sont un peu différentes mais dès qu'on est du côté du corps et d'un métier qui est du côté de l'idéalisation du corps uniquement les carrières regardez les gymnastes les danseuses les mannequins ou les footballeurs c'est carrément ça va être très très tôt. Et qu'il y en a un sur combien qui arrive à se reconvertir. Et il y en a beaucoup qui s'effondrent finalement. Enfin, ils ne viendront pas tous, ils réussiront pas tous à se réadapter.
L'idéal n'est pas forcément pour soi. Ça peut être par exemple un rêve que l'humanité est bonne. Et devoir renoncer à un rêve.
Heureusement que ça n'arrivera pas. Enfin,
ça amène à la
Tout à fait. Et là, je pense que Mathieu Garraud sur le Utopia, qui a un titre un peu bizarre, mais vous verrez, c'est plus un titre que le titre. On s'en est parlé un petit peu. Il abordera vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a besoin de cette question de la marge. On a besoin de cette question de la limite et que, vous dites, même pour, quand c'est pas pour soi l'idéal, mais pour les autres, s'il n'y avait pas de guerre dans le monde, s'il n'y avait pas de famine dans le monde, s'il n'y avait pas de pauvreté dans le monde, ben on ne pourrait pas vivre, tout simplement. C'est-à-dire que c'est nécessaire. C'est nécessaire. Ça permet de se différencier. Comment on peut savoir qu'on est heureux? Comment on peut savoir qu'on est repu? Comment on peut savoir qu'on est en paix? Nous, à l'heure actuelle, là, on vit dans une société où, effectivement, par exemple, au niveau des guerres, les choses sont à peu près apaisées depuis quelques années sur notre territoire. Voilà. Y a encore plein d'autres pays dans lesquels ça existe. Et tant que ça existe loin de nous, à l'extérieur, on n'a pas trop à être inquiété. Hein, mais on sait que ça existe. Et on peut être en paix parce qu'on sait que ça existe ailleurs. Je pense qu'à aucun moment de son existence, la civilisation, l'humanité a rencontré une période qui était déprise de, je dirais, des choses qui la tourmentent le plus. Hein. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de maladie, s'il n'y a plus de limite, la limite ultime est par la mort. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que la vie peut être supportable, c'est bien qu'on sait qu'elle prend pas terme un jour. Hein. C'est-à-dire que si on était dans une logique expansionniste comme ça, ou en disant qu'on allait vivre à tout jamais, je pense qu'on se suiciderait. C'est triste, hein, mais c'est, je ne veux pas vous amener sur ces pensées-là. Mais la vie n'est pas envisageable sans buter. Hein. On ne fait pas d'enfant, effectivement. Voilà. C'est-à-dire que c'est bien le fait de savoir que un jour ça s'arrêtera. Ou que de savoir que d'autres ne l'ont pas, ou que nous on peut, mais que d'autres ne peuvent pas, c'est tout ça qui nous permet d'exister. Enfin, c'est vraiment le c'est repère identificatoire.
C'est la comparaison,
ouais. C'est la comparaison à l'autre et la butée.
C'est une connotation un peu mystique.
Comment
mystique, la comparaison à l'autre. On est heureux parce que se compare aux autres.
C'est, comment dire, alors évidemment on va pas se réjouir sadiquement du malheur des autres, hein, il s'agit pas de ça, bien sûr. Alors si on est capable de satisfaire ou d'être heureux que parce qu'on imagine que d'autres sont malheureux, là il y a un souci à se faire, on est d'accord.
C'est ce qui fendrait notre système de valeurs.
Et oui, c'est-à-dire que toute la morale et le système de valeurs effectivement prend appui là-dessus, c'est-à-dire qu'on a besoin de comparaison, on a besoin. Alors, je parlais de processus identificatoire, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on a besoin de pouvoir s'appuyer dessus, on a besoin de pouvoir comparer, je dirais, notre monde interne à celui de l'autre, ou notre condition d'existence à celle des autres, pour pouvoir, je dirais, savoir à peu près ce qu'on vit. Hein. Et ça, c'est les premières étapes de la vie, c'est-à-dire que comment savoir que ce qui est agréable est agréable, que personne vient nous le dire. Et on a bien besoin du repère de l'autre, pour pouvoir venir qualifier l'expérience émotionnelle. Au début, il y a une expérience émotionnelle, et puis arrive un jugement sur cette expérience. Et c'est bien le jugement du tiers, qui veut dire ça c'est du chaud, ou ça c'est du froid, qui nous permet de différencier les deux. Je le mets sur les sensations sensorielles, mais du point de vue de la structuration, on va dire, morale, les choses vont être à peu près identiques.
Il n'y a pas que le par rapport aux autres, mais aussi par rapport à soi-même dans le temps. C'est-à-dire comment on sait qu'on a plus mal, qu'on a mal ou qu'on a plus mal, c'est bien par rapport à l'intervention précédente. La notion de bonheur étant toujours aussi complètement instantanée, c'est-à-dire que je suis bien parce que j'étais mal avant ou parce que j'étais moins bien, ou voilà. Donc c'est pas que par rapport à l'autre, c'est aussi dans le temps.
Tout à fait, oui. Ouais, mais c'est intéressant que tu aies mis ça, parce que repenser une phrase de Winnicott qui dit que la position dépressive, c'est l'état dans lequel on est le plus à même d'être en contact avec nous-mêmes. Et que l'inverse, dans le fait d'être heureux, alors si la défense maniaque est une forme de bonheur, en tout cas quand on est dans un état d'exaltation, hein, qu'on va appeler défense maniaque ou état hypomane, enfin voilà, et quand on est dans un état comme ça de bonheur, d'exaltation, d'élation narcissique, ou Et quand on est dans cet état de défense maniaque, hein, on se défend contre la dépression. Et Winnicott nous dit, on n'est jamais aussi loin de soi-même quand on est dans cet état de bonheur, parce qu'on n'est plus en contact avec soi. Si on regarde bien, c'est quand même, on est beaucoup plus à même de développer un mouvement d'introspection et d'écoute de son monde interne quand on va pas bien. Hein. Et quand on est heureux, ben, on est affairé à plein d'autres choses. Quand vous êtes heureux, vous n'êtes pas du tout à vous dire pourquoi je suis heureux, c'est étrange, mais qu'est-ce qui m'arrive là, mais c'est dans une énigmatique, mais comment ça se fait. Non, non, on est heureux. Hein, et on s'affaire à ce qui produit notre bonheur ou ce dont on imagine qui participe de notre bonheur. Par contre, quand on est mal, là, on est amené vers un mouvement, je dirais, qui va pas vers l'extérieur, mais qui va vers le dedans et qui nous permet de mettre au travail des choses. Et effectivement, après, sur la question de la beauté, de la limite et de la polyphonie de nos expériences internes, c'est bien parce qu'on a rencontré un jour la souffrance ou la douleur ou la maladie qu'on sait ce que ça veut dire que d'être en bonne santé. Si on n'avait jamais perçu cette expérience-là, il nous manquerait effectivement toute capacité à pouvoir discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Or, malgré tout, tout ce travail de déliaison, tout ce travail du négatif, tout ce travail, on pourrait dire, du mal, hein, il y a un article qui s'appelle d'André Green, qui s'appelle Pourquoi le mal, hein, et qui, je vous mettrai la référence en vidéo, mais sur cette question du mal, c'est éminemment important. Sans ça, on n'aurait pas la capacité, je dirais, à pouvoir tirer parti d'un état normal, quelque part.
D'où l'importance de ne pas être une mère suffisamment bonne. Je pense que c'est très structurant pour l'enfant de se confronter aux failles, finalement, puisque le monde est plein de failles.
Tout à fait, mais moi je suis adepte de la clinique winnicottienne et quand ils développent que les thérapeutes internes seront utilisés pour leurs failles et pas pour leurs compétences, c'est exactement ça. C'est-à-dire, ils disent bien comment. Quand on bosse avec des ados, ils vous loupent pas. Et c'est exactement ça. Ils viennent vous chercher là où pile vous savez que vous êtes en difficulté, vous êtes un peu bancal, vous êtes un peu foireux, vous n'êtes pas totalement honnête, vous êtes le petit truc qui fait que paf, ils viennent choper ça et ils vous font vaciller, hein, l'espace d'un instant. Et ils viennent systématiquement titiller nos failles parce qu'ils les perçoivent. Et ils les perçoivent et en fait, ils les rassurent. Ça les rassure, parce que si on était un objet totalement bon, alors je dis en tant que psy, mais en fait c'est n'importe quel adulte, hein, ça peut être le parent, le professeur, si on était un objet, un individu capable de tout, omniscient, infaillible ou autre, il serait terrifié. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de possibilité de pouvoir s'identifier à ce monstre-là comme ça, improbable. Enfin, finalement, là où ils peuvent s'identifier, c'est à nos dysfonctionnements, à nos failles, parce que c'est là-dessus que se structure par rapport à la honte aussi, mais après, il faut faire un autre débat. Et les ados, quand ils disent entre eux, ah, c'est la honte, ils viennent pointer ça du côté de la honte, mais ils viennent pointer une expérience qu'eux-mêmes un jour ont vécue, hein, ils la voient chez l'autre. Quand ils pointent ça chez l'adulte, une faille ou autre, ce qu'ils pointent, c'est pas la difficulté de l'adulte, c'est quelque chose qu'ils arrivent à identifier comme un peu pourri, mais qu'ils ont déjà vécu en eux, ou qu'ils ont déjà identifié un jour en eux, sinon ils ne seraient pas capables de l'identifier chez l'autre. Et du coup, ce qu'ils viennent pointer, c'est « regarde, toi, t'as un truc de pourri », mais en fait, ils sont en train d'exhiber leur propre faille en sens. Enfin, on ne peut pas leur envoyer ça, sinon ça les mettre en difficulté, mais à chaque fois qu'ils viennent nous titiller comme ça, ils n'ont de cesse que de dire « moi aussi, un jour, je me suis senti bancal ou autre, parce que j'avais le sentiment d'avoir telle ou telle faille. Hein. » Et c'est pour ça que c'est important d'avoir ces failles-là, parce que si on se présentait comme un objet total et a priori, il n'y aurait aucune capacité à pouvoir servir de repère pour l'autre.
C'est toute la question du désir. Ça ouvre à la question du désir. Si on est toujours absolument bon et qu'on répond toujours, on ne laisse pas d'écart ou d'espace qui permette au désir de monter. Parce qu'on a du désir, qu'on se tourne aussi vers le monde et qu'on cherche à explorer.
Et pour qu'il y ait du désir, il faut qu'il y ait du manque.
Il faut qu'il y ait la frustration.
Ah oui. C'est-à-dire que...
C'est le monde de la fin, quoi.
Ouais, effectivement. Et c'est le fait de rencontrer la déliaison qui fait qu'on est amené toute notre vie à essayer de tisser du lien. Mais c'est aussi parce qu'on sait qu'il y a un processus-là qui est sous-jacent. Parce que peut-être qu'un temps après, question du désir, tu nous en parleras bien mieux, il y a aussi tout le temps la question de la pulsion de mort, hein, et de la destructivité. Et là qu'on n'a pas abordé, mais effectivement, le paradigme extrême de la déliaison, c'est la mort. Hein. Et la mort, elle est structurante parce qu'elle nous permet de vivre, elle nous permet de vivre, comme je disais tout à l'heure. Oui, certes, et à la fois, elle nous fait sacrément peur. Hein. Et en fait, notre vie, elle est lutter contre. Contre même l'idée d'essayer d'y penser, l'idée de se représenter cette question-là. Enfin, voilà. Et je dirais la déliaison à l'extrême, ce serait quelque chose de la violence totale, la destruction de l'autre. Ça pourrait aller de ce côté-là. C'est pas, en tout cas, une modalité que je souhaitais aborder aujourd'hui, parce qu'on serait du côté, on pourrait penser à ces violences. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des violences psychopathiques, des gens qui en tuent d'autres, voilà. Là, on partirait du côté de la haine pure. Voilà. Mais là, ce serait un autre débat. Mais voilà, la déliaison à l'extrême, elle serait à cet endroit-là. Même si on pourrait se demander si quand un psychopathe tue, il n'est pas en train d'essayer de créer du lien, malgré tout. Et pour ça, il doit détruire l'objet.
Justement, la déliaison serait plutôt l'indifférence que
la déliaison, elle peut être l'ignorance, l'indifférence. On en parlait tout à l'heure dans les situations familiales. Tout à fait. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une existence subjective, il y a un positionnement subjectif, hein, effectivement. Dans le mépris, l'indifférence, dans la négligence, ça va être une forme de déliaison du côté de la dépressivité totale, c'est-à-dire du désinvestissement, on va dire, de l'autre. Moi, je pensais aussi à André Green pour ramener.
Dans une version optimiste, il n'y a pas forcément du côté pathologique, justement, à ce côté, entre guillemets, indifférent, parce que ce n'est pas de l'indifférence. Dans certaines pages orientales, justement, il y a ce détachement que nous, on pourrait appeler indifférence, mais qui est pas tout à fait ça.
Oui. Alors, dans le bouddhisme, par exemple, le bouddhisme propose cette question de la vacuité, hein, du renoncement pulsionnel, d'aller rechercher le vide. Non, dans le bouddhisme classique.
La négation de l'ego.
Oui. D'accord, alors peut-être, moi en tout cas, dans la plupart des sutras que j'ai pu étudier au niveau du bouddhisme zen ou du bouddhisme, que ce soit tibétain ou. Globalement, il y a bien de la recherche effectivement d'un état de quiétude qui passerait par le non-lien, c'est-à-dire et que ce détachement, il est du côté du non-lien, il est du côté de la déliaison. C'est compliqué de marier les théories comme ça, parce que là on est sur des champs on n'a pas le même vocabulaire, c'est pas dit, mais c'est juste que le vocabulaire n'est absolument pas le même, donc c'est assez périlleux. Tout à fait. En tout cas, on pourrait dire que le non-lien ou la déliaison que proposent ces croyances ou ces pratiques méditatives ou philosophiques sont du côté d'un apaisement pulsionnel interne, on pourrait dire, une agitation une recherche de fuir l'agitation pour se trouver soi, se rencontrer soi. Il ne s'agit pas de quelque chose qui serait du côté de la mélancolie, a priori, hein, mais plutôt du côté d'essayer de se détacher de ce qui nous tiraille de l'intérieur, hein, ou parfois de l'extérieur, du côté des jouissances ou des opulences du monde. Une des formes de déliaison au niveau des formations psychopathologiques va être, mais on ne pourra pas aborder ici, du côté d'un processus de mélancolisation. Ça veut dire d'un lien qui se meurt, d'un lien au désir. Hein. Là, je fais une introduction sur l'intervention de Kerber-Rosa là-dessus. C'est que dès lors que le lien vis-à-vis, l'investissement vis-à-vis du désir se meurt, il y a un processus de mélancolisation qui peut amener vers, l'état de non-vie, hein, on pourrait dire, plus que la mort. Mais il y a quelque chose qui finit par se taire. Et entre autres, ce que Freud avait proposé, dialectisé autour de pulsion de vie, pulsion de mort, Eros et Thanatos, même si, bon, la proposition de Freud n'est pas forcément satisfaisante en soi. André Green avait parlé de pulsion de destruction et du tout le travail de déliaison, justement, qui s'y réfère, hein, autour des pulsions. Est-ce qu'on s'arrête du côté de la mort, de la non-vie, de la dépression, de trucs comme ça, bien sordide?
Il y a un sujet que vous avez évoqué en disant que c'était quelque chose de la honte.
Non. En tant qu'individu bien subjectivé, différencié de ça, j'adresse ma haine en disant non. Mais dire un mot sur la honte, c'est compliqué comme ça à votre pourpoint, je dirais. Enfin, ça mériterait, je dirais, vraiment quelque chose d'un développement à part entière. Sinon, c'est pas satisfaisant. Au mieux, je vous dirais une définition que vous trouverez dans un dictionnaire. Je suis pas sûr que ce soit. Que je puisse vous en dire des choses intéressantes, Pierre, tu
vois. Non, je sais pas, je dis l'année prochaine,
quoi. Ah, oui, l'année prochaine, bah, tout dépend du thème, parce que. Bah oui, mais il faut l'articuler avec la question de la honte, c'est pas évident.
C'est ça,
la honte. Mais pas plus tard que le mois dernier, il y avait un intervenant, Alain Ferrand, qui a fait une conférence sur la honte. Il a écrit pas mal là-dessus. Moi, je vous invite à aller voir. Vous allez sur Cairn, un site où il y a des articles. Je ne sais pas si vous connaissez. Je fais les comme ça.
Oui, mais c'est payant,
Cairn,
pour ceux qui ont pas
Cairn, c'est payant. Oui, effectivement, les articles sont payants. Mais après 5 ans, ils sont gratuits. Quand les articles ont plus de 5 ans. Donc, essayez de lire des vieux, des gens qui ont écrit à 5 ans. Cairn, comme un tas de cailloux, vous savez. CAIRN.info. Et c'est un site qui. Banque de données, comme il y a percé.org, ce sont des banques de données d'articles scientifiques, pas scientifiques ou de sciences humaines, et il y a des articles de philosophie, de sociopolitique, de philosophie, d'être, psycho, enfin il y a des livres d'économie, et la plupart des revues sont recensées sur ce site-là, et vous trouverez, dès que l'article a plus de 5 ans, vous pouvez le télécharger en PDF gratuitement. Et voilà, Alain Ferrand donc, a écrit des choses bien plus précises que ce que je pourrais vous en dire en deux mots, comme ça, sur la honte et le travail de culpabilité. Il y a, je pense, un autre ouvrage qui est paru à Dunod, Honte, traumatisme et culpabilité, qui a été coécrit par Alain Ferrand et Albert Dicon. Ça, c'est Claude Janin qui a écrit donc, un rapport au Congrès des psychanalystes de langue française sur la honte, effectivement, dans la revue française de psychanalyse. Alors, Alain Ferrand, ça se lit, le rapport de la représentation de psychanalyse, il est un peu complet, je pense. Hein, je ne suis pas sûr que ce soit. Mais Tisseron a écrit, un des premiers, si ça me revient, je pensais, dans les auteurs lisibles. Serge Tisseron, qui a beaucoup écrit sur l'image, la bande dessinée, tout ça, le processus du virtuel, a été un des premiers à écrire un bouquin sur la honte. Mais il n'empêche que peut-être un jour on aura l'occasion de s'en parler. Mais on en reste là, et du coup, voilà, je vous remercie de votre écoute, de votre participation, et à l'an prochain pour moi, à la semaine prochaine pour les collègues. Merci.